Vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon.
Et bonjour, bienvenue dans notre quatrième émission de Comics Sidecast avec les univers, les comics et tout. Et on va parler.
Bah, ça va sous de ma gueule, là.
Non, n'importe quoi, pas du tout.
Non, n'importe quoi, pas du tout.
Bon, vas-y, Joe, générique, là.
Mais non.
Générique.
3, 4.
Bonjour et bienvenue dans cette 34e émission de Comics Outcast. Cette fois-ci c'est moi, hein, c'est pas mes jeux anti-comparses qui ont essayé de m'imiter, c'est moi. À tour de moi, vous avez déjà entendu, il y a Ben.
Salut, salut.
Il y a Zef.
Salut.
Et il y a notre réalisateur Joe.
Bonsoir.
Pendant une heure, on va vous parler de comics et de leurs univers. On a un programme assez sympathique pour vous. On va vous parler de Weird World de chez Marvel. On va vous parler de Tokyo Ghost de chez Image Comics. Tokyo on va Ghost, vous parler ouais. de Alien contre ou avec ou slash Vampirella chez Dynamite Publishing. On va vous faire un focus sur Hellboy et le Minionverse en général. Et enfin, on va vous parler de la nouvelle série Netflix qui s'appelle Jessica Jones. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous contacter par Twitter, Facebook et compagnie pour nous faire part de vos messages, recommandations et conseils sur des séries à suivre ou même vos avis en général sur l'émission. Comics Outcast numéro 34. C'est parti. Tududululute. Première partie de l'émission, on va pas faire des revues. On va faire des revues. On va parler
on
de revues.
On va faire les revues.
Oh non. What
Nani, arrêtez pas de faire l'accent jap à chaque émission, j'ai bien
envie de faire. Pourquoi être raciste des accents? On a bien des accents possibles.
J'ai envie de faire Michel Lep de temps en temps.
C'est juste qu'un accent, tout non. Bon bref, les revues, voilà, on choisit ensemble trois séries à lire ensemble. Mm-hmm. On les lit chacun de notre côté et pendant l'émission.
Ou ensemble, des fois,
ou ensemble, sur les genoux, tout ça. À deux. Une page, l'un page de gauche, l'autre page de droite, pour partager le temps de cerveau. Cette semaine, une des trois séries, c'est Weird World. Absolument. Une série qui fait partie
Monde chelou en français.
Non, c'est pas vrai. Une série qui fait partie de.
Bah non, monde bizarre.
Oui, oui, voilà. Ouais. Donc cette série fait donc partie de l'event Secret Wars. Absolument. Tu peux nous en parler un petit peu, Ben?
Alors je vais pas le faire bien si je le fais en entier, donc je vais le faire très court. En gros, Secret Wars, il y a eu le bordel dans le monde de Marvel. Tous les mondes ont fusionné. Ouais, mais Zef dit non. C'est pour ça que j'avais dit que voilà.
Collapse.
Ouais, si
voilà, tous les mondes se sont écrasés les uns sur
Exactement.
Les autres.
Ça a créé une planète qui s'appelle Battle World. Dans lequel, à l'intérieur de laquelle, en dedans, il existe plein de mini-mondes, de mini-univers comme ça, qui correspondent souvent à un univers d'un personnage. Ce qui veut dire que dans certains univers, ça file en train de mourir parce que je dis des conneries, mais c'est pas grave.
Non, 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 c'est
Il y a des, tu peux avoir des doublons, un Spider-Man, enfin, bref, plein de trucs. Et un de ces mondes-là est Weird World, donc c'est un monde.
Bizarre,
ça porte très bien son nom. En fait, Weird World, c'est une série qui existait depuis les années 70. Qui ne faisait pas partie de Secret Wars à l'époque puisque ça n'existait pas. Et donc ça revient au goût du jour via cet arc-là. C'est au scénar on a Jason Aaron que j'affectionne particulièrement depuis Thor God of Thunder.
Voilà, donc on a déjà parlé un peu ici.
Voilà,
Seven Bastard aussi.
Exactement. Oui. Après chez Marvel il a déjà bossé pour Wolverine et il a fait aussi un truc avec des Indiens que j'ai pas lu qui s'appelle Scalped. Qui a l'air assez cool.
Qui est dessus, ça défonce.
Voilà. Et en gros voilà moi j'ai vraiment choisi ce truc-là parce que Secret Wars je m'en fous complètement. Mm-hmm. Très honnêtement, mais j'ai vu Jason Aaron, j'ai dit go. Donc j'avais même pas feuilleté le truc. Donc j'ai un peu pris une claque pour les dessins, j'en parlerai juste après. Donc le scénar de Jason Aaron, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Harkon.
Arrête de bouger ton micro de devant.
Ouais, mais si tu veux, c'est un micro de. Est-ce que vous êtes là ce soir?
Tu le laisses poser sur ton genre sur ton menton.
Là, mobile, sur ton je voudrais poser un slam. Non, c'est bon. Donc oui, donc c'est l'histoire de
Le mec, tu lui dis d'arrêter de bouger son micro. Ouais, il mais tourne ça, autour
là,
de
bon,
sa tête. Quoi.
Là, c'est bon, je suis bon. Là.
Ok.
Donc c'est l'histoire de Harkon qui s'autonome Lord of the Warlords. Donc c'est un peu le méga boss.
C'est une sorte de Conan, quoi.
C'est un peu une sorte de Conan.
Une sorte. Ouais, je.
C'est Conan le barbare.
Qui en fait, il a Weird World depuis très très longtemps, depuis des années. On sait absolument pas pourquoi il est là, ni lui, ni est-ce qu'il a un but ou est-ce qu'il doit aller, il sait pas, mais lui, ce qu'il chérit, ce qu'il maintient en vie, c'est de retrouver son monde à lui qui s'appelle Polémachus, ou Polémachus, mais je pense que c'est Polémachus. Du latin, ça diphtongue. Donc,
ça ressemble plus à du grec, mais c'est pas grave.
Donc, il parcourt ces paysages complètement abracadabrantesques, où il rencontre toutes sortes de créatures qui n'existent que dans ce monde-là, et dans le but, donc, du coup, de retrouver son monde à lui. Il a même une carte en fait qui suit Edita, j'ai déjà été à cet endroit.
Ouais.
En fait, elle rigole parce que la carte, on dirait un enfant de 5 ans qui l'a dessiné, mais c'est assez rigolo.
Bien, ouais.
Donc voilà, donc en fait, en gros, ce qui se passe, c'est un peu, c'est de l'heroic fantasy pur. C'est, il rencontre, enfin, il marche, il rencontre un ennemi, il le défonce, il rencontre un allié, il team avec, il rencontre un méchant, il le défonce, etc. Ce qui est assez cool, c'est que c'est bourré de, donc, enfin, c'est vraiment l'imaginaire le plus total. On peut t'imagines n'importe quoi, des requins pieuvres, des enfin je sais pas, il y en a
des
tellement.
De base, requin pieuvre à la première page du premier issue.
Ouais, déjà c'est assez.
C'est
ouf.
Oui. C'est
exactement.
D'accord.
Donc ouais, j'ai pas continué sur l'histoire, mais en gros il y aura un gros méchant, enfin le méchant de ce monde-là. Il va rencontrer différentes factions qui sont méchantes ou gentilles. Il va même rencontrer un mec de diamant qui est complètement pété du cerveau, qui est assez.
Tant que c'est pas un rocker.
Oh merde. Donc voilà. Donc ce qui est cool, c'est que c'est n'importe.
Je l'ai pas. C'est... Non mais personne.
La roqueuse de diamant là.
Je suis la roqueuse de diamant.
Il voulait juste passer éclater de la rame.
Voilà.
Donc ce qui est très cool, c'est que donc c'est un scénar qui est très très imaginatif. Il y a beaucoup de d'inspirations qui sont servies par les dessins de Michael Del Mundo, qui est surtout connu. Enfin, en tout cas moi je le connaissais pour ses couvertures chez Marvel. Ouais. Je l'ai pas vu dessiner sur un truc régulier. Enfin, à moins que je me trompe, je sais pas si vous, mes petits camarades peuvent compléter, mais en tout cas pour moi c'était un cover artiste.
Je l'ignore.
Voilà, qui pour moi pète la gueule complètement. Il est ouf. Enfin, j'adore vraiment son trait. Et je trouve que c'était vraiment pour ce genre d'histoire qui effectivement n'est pas. Enfin, le gars n'a rien inventé. Hein. Comme on dit, c'est un espèce de Conan, un sous Conan.
Ah, comme on dit, un espèce. Non, on dit pas un espèce.
Mais ce qui est cool, c'est que du coup, c'est vraiment le trait qu'il fallait pour illustrer ce genre de délire. Un peu
fantasy,
ouais, ouais. Je veux dire what the fuck depuis tout à l'heure qui n'est pas traduit vraiment en français, mais donc voilà, donc j'ai trouvé vraiment son trait est cool. Il y a des couleurs c'est chatoyant en fait, c'est des couleurs criardes. Je trouve que l'action est vraiment bien retranscrite. En fait, ce qui est assez, enfin d'habitude j'aime pas les effets spéciaux, je veux dire dans le comics.
Oui.
Là je trouve que ça va, ce que j'appelle les effets spéciaux, c'est à dire des floutés pour exprimer le mouvement. Et tu fais non de la tête,
ouais,
peut-être que t'as
je,
pas.
Je moi, je, pas du
en fait,
tout.
J'aime pas le principe, mais je trouve que là, c'est bien dosé, c'est-à-dire que c'est ni trop ni pas. Enfin, c'est bien.
Ni bon,
Et un autre truc qui était un peu maladroit, mais qui fonctionnait quand même, c'est une espèce de profondeur de champ qui est aussi gérée par le flouté, mais différemment. Voilà, disons que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais ok, pourquoi pas. C'est au moins il a tenté le coup, tu vois. C'est pas plat quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré, je trouve ça vraiment cool. Effectivement, ça réinvente pas la roue, mais c'est juste hyper plaisant à lire et c'est hyper joli. J'ai pas parlé de tous les personnages futurs, les espèces de sous-plot, si on peut dire comme ça, de sous-scénario. Ce que je peux dire par contre, c'est que c'était prévu pour 5 issues.
Ouais.
Et en fait, ça a tellement rencontré un succès que ça va être en série régulière.
D'accord, donc à post Secret Wars, ça
exactement.
Continuera et
voilà, donc c'est plutôt cool parce qu'en fait j'ai un peu cherché, c'est un peu des héros qu'ils ont dépoussiérés. Effectivement, c'est le Conan de Marvel en gros, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment il a rien de fou. Mais je trouve, en tout cas si ça continue avec ce dessinateur et avec Jason Aaron, je signe. Si c'est pas le cas, je regarderai par curiosité, mais sinon effectivement peut-être que ça sera juste un truc d'heroic fantasy comme plein d'autres.
Zef?
Désolé, moi j'ai pas du tout je suis pas très fan en fait, comme si vous entendez Nekoto quand il en parlait. En fait le truc c'est que je suis pas j'aime Conan à la base et j'aime pas trop le sous-produit qu'ils essayent d'en faire. Maintenant l'histoire est pas ouf à mon niveau, mais parce que ça rentre dans la fantasy classique. Enfin, je sais plus, c'était un comics qui avait présenté dans des anciennes émissions justement, qui est pareil dans la fantasy globale et tout, avec les animaux là, enfin anthropomorphes.
Oui.
Et du coup, c'est un peu, je vais me servir des mêmes
tout
arguments en disant
tout
que c'est trop classique en fait pour moi, c'est vu, revu, recraché, revomi.
Attends, donc en fait, aujourd'hui on peut plus faire de l'heroic fantasy en comics.
Non, je dis pas ça, c'est que là c'est trop simple en fait. Tout est vu en fait, le gars de diamant, enfin qui l'aide à s'échapper. Tu sens que le truc est bizarre, la fin, l'espèce de plot twist à la fin où il monte sa carte, tu fais what the fuck en fait. Alors peut-être que, je sais pas, je l'ai peut-être trop de trucs fantaisiques à la base, et du coup je le vois venir, mais ça m'a pas plus surpris que ça. Après, je sais pas trop accroché non plus au niveau des dessins et couleurs,
ouais.
Je suis pas très fan, même s'il y a des trucs qui sont cool, le dragon qui reste au début et tout, est assez cool, Morgan La Fay est très bien aussi, voilà, je regarderai qu'en disant parce qu'il
est... Non, je mets pas corrigé, c'est juste le jeu.
C'est juste que, voilà, enfin après je suis pas très fan, et ça m'a pas emballé plus que ça.
Et Joe pour finir?
Moi j'ai trouvé ça mortel.
Voilà.
J'ai pas trouvé que c'était du tout. Au contraire de Zef,
J'ai trouvé que c'était assez non conventionnel dans le sens où oui, effectivement, il y a un côté très heroic fantasy by the book, tu vois, c'est un peu le béaba de l'heroic fantasy, mais c'est en même temps tellement télescopé dans un univers qu'on dirait presque sorti de l'esprit d'un enfant, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où le mec sort sa carte et qu'on dirait qu'effectivement elle est dessinée par un enfant de 5 ans, je me suis dit, c'est ouf. J'ai pensé pendant 2 secondes, ça se trouve, tout ce qu'on lit là, toute cette histoire, en fait, c'est un truc imaginé dans la tête d'un gamin de 5 ans. Et du coup, c'est ce qui pour moi apporte la valeur ajoutée au récit, et c'est ce qui fait que j'ai vraiment bien accroché, c'est que j'ai l'impression de voir effectivement une sorte d'ersatz de Conan le Barbare, transporté dans l'esprit d'un enfant de 5 ans, où tout se télescope, où il y a des dragons qui se font, où on inverse le concept de la pêche. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un dragon qui se fait pêcher par des singes qui vivent sous l'eau. C'est des petites idées qui je trouve, cassent un peu le côté conventionnel du récit et du scénario. C'est le premier truc qui m'a plu. Et le deuxième argument qui m'a fait véritablement accrocher, c'est tout comme Ben, le traitement visuel, que perso je trouve extrêmement efficace, et moi non plus qui suis pas très fan des effets spéciaux, des effets de flou pour les perspectives et tout, j'ai trouvé que là ça m'a pas choqué en tout cas. Donc du coup, tant que ça me choque pas, ça va. Et au-delà de ça, je trouve que le mec a vraiment un trait assez virtuose. Enfin, ces splash page, ces illustrations sur 2 pages où on voit le plan de Weird World défiler devant nous et tout, j'étais là genre putain, c'est quand même il y a des idées, en fait. Un peu comme le mec, je sais plus comment ça s'appelait, le dessinateur de la série dont j'avais parlé, qui s'appelait Low, de Rick Remender aussi d'ailleurs, la série qui se passe sous l'eau. Il y a un côté où on prend beaucoup de recul en fait dans les cases pour découvrir des paysages dans leur globalité, et ça me plaît beaucoup parce que ça permet d'ancrer un petit personnage qui est le personnage principal dans une sorte d'univers global, et ça, pour moi, ça permet au lecteur de s'identifier encore plus, enfin de plonger encore plus dans l'univers. Voilà, c'est pour ça que ça m'a plu et que je pense que je continuerai à lire au moins jusqu'à la fin des 5 premiers. Voilà.
Zep, pour conclure, et ensuite Ben. Zep et Ben.
Pour le truc, tu parlais, en fait je rebondis sur ce que tu disais sur l'univers qui est imaginé par un gamin de 5 ans et tout machin. C'est juste pour dire, déjà vu
ouais,
en fait.
Il y
a un très bon comics là-dessus qui s'appelle Conan, justement, et qui est, c'est non, marrant parce que c'est, ça a un
avoir. En fait, au bout d'un moment, pour n'importe quel comics, on peut dire c'est déjà fait.
Non, mais attends, je le dis pas comme un reproche. Je dis juste que parce que j'en ai lu beaucoup, peut-être trop, je suis un peu fadé par le truc en disant ok, déjà vu quoi. Mais maintenant, c'est pour dire.
Mais parce que dans mon souvenir, en fait, Conan c'était beaucoup plus dark que ça. Enfin,
c'est un peu plus mature. Ce que je veux dire, c'est que c'est très pris dans le lourd, en fait. C'est comme comparer Seigneur des Anneaux et Elric, quoi. J'en sais.
Je suis pas.
Pour moi, ça n'a rien à voir.
Mais c'est parce que je dis, en fait, c'est le même. Enfin, le Elric, c'est un peu le Seigneur des Anneaux pour les adultes, dans le sens où c'est plus violent et plus truc comme ça. Mais après, c'est un autre débat.
D'accord.
En fait, je suis pas très objectif parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre, mais je suis persuadé que si t'avais aimé le trait, t'aurais un autre avis. Évidemment, on peut dire ça pour n'importe quel comics, mais pour moi, là, vraiment, le truc qui donne toute l'essence à ce truc-là, c'est le trait. Et je pense que le dessinateur doit pas être étranger au design des monstres, en fait.
Oui, bien sûr.
Je pense que c'est pas entièrement écrit par
Jason Aaron. Ça m'a fait penser à Black Science, d'ailleurs.
Ouais, complètement. Et donc voilà, on le saura jamais, mais je pense que si t'avais, je pense que c'est le dessin qui aurait pu te faire aimer un truc dont t'as
Black Science, c'est pas vrai, j'ai pas aimé non plus.
Alors, c'est vrai, il avait pas aimé Black Science.
Juste pour revenir, donc le
Marvel, hein, je l'ai pas dit.
L'Ardest. L'artiste qui a illustré l'eau avec Rick Remender, c'était Greg Toccini.
Ah voilà, Greg Toccini. Et ben là, c'est Del Mondo. Del Mondo et Toccini, ils me plaisent les deux.
Voilà. Italien, donc
exactement.
Ok,
cool. Oh, rien à voir, mais la langue chante un petit peu, quoi.
C'est chez Marvel. On a review les 3 premiers. Donc la série continue.
Lisez les 5, c'est rapide et c'est cool.
Deuxième série, c'est Joe qui va garder la parole et on va parler de Tokyo Ghost, une série comme par hasard de Rick Remender.
Donc,
il a toujours pas reçu son package, hein, il a toujours pas accepté, notre invitation. C'est donc une série Image Comics, illustrée par Sean Murphy, dont on a parlé il y a pas si longtemps pour Punk Rock Jesus.
Tout à fait.
Chrononauts se donnait aussi. Ça a commencé il y a pas très longtemps, en septembre 2015.
Tout à fait.
Tokyo Ghost. Je sais pas comment introduire ça.
Tokyo Ghost. C'est ouf parce que moi non plus je sais. En fait, on a introduit tellement de séries de Rick Remender dans cette émission qu'au bout d'un moment t'es là genre. Alors, bah écoute,
bienvenue dans Remender Outcast.
Non mais c'est
alors, le Remender World. Il s'est réveillé en pensant à ça. Et donc
non,
il a
mais
fait
ça. Ça un jour, je sais que des gens feront des focus sur le Remenderverse. Alors Tokyo Ghost, nouvelle série de Rick Remender qui une fois de plus, une fois n'est pas coutume chez Remender, nous plonge. Directement dans le cœur de l'action dès la première issue, puisque c'est une course poursuite toute la première issue, c'est une course poursuite qui se continue dans la deuxième issue, et on s'aperçoit donc assez rapidement qu'on est dans un monde futuriste, mais dans un futur j'ai l'impression plus ou moins proche quand même, hein. On
2098. Ne fait
pas, voilà, 2098, c'est pas la fin, c'est pas, on n'en est pas à la fin du siècle l'humanité semble, enfin en tout cas une grande partie de l'humanité semble avoir été un petit peu happée par les internets et vivent donc désormais connectés à l'intérieur de ce qu'ils appellent the tech, qui est devenu une sorte de drogue qui permet aux êtres humains de se déconnecter totalement de la réalité et des problèmes de la vie, ouais. Et de vivre en visionnant devant leur regard, en fait, même pas via un écran de télé, mais avec une sorte de puce implantée en eux qui projette des hologrammes de programmes internet censés leur faire oublier leur vie, et donc au milieu de cet univers totalement connecté, on retrouve une héroïne qui s'appelle Debbie dont on comprend assez rapidement qu'elle a été une des rares personnes sur Terre à dire non à cette addiction à la technologie.
En gros, c'est notre mère à tous.
C'est un peu ouais. Ça. Voilà, c'est le dernier être humain censé
sur la planète. Voilà.
Exactement, c'est notre maman. qui ne sait pas ce qu'est un modem. ni club internet. On comprend assez rapidement que c'est une sorte de mercenaire, ou en tout cas de mercenaire qui avec son mec, qui lui en revanche est totalement
accro,
connecté, totalement accro. Son mec est une sorte de montagne de muscles juché sur une moto qui n'est pas sans évoquer l'univers de Otomo et de Akira qu'on retrouvera encore beaucoup dans les influences de Tokyo Ghost, je pense. En tout cas, sur les trois premières issues, ça, c'est une des influences qui transparaît beaucoup. Et donc, voilà, sur la moto de son mec, elle essaye d'arrêter une sorte de hacker international qui a la faculté de, tel un virus, en fait, humain, d'infecter tous les systèmes. Le mec est internet, en fait.
Internet.
Le mec est un virus internet vivant. Et son but sur cette première issue, en tout cas, c'est d'arrêter ce mec pour pouvoir mettre fin à un contrat qu'elle a sur la tête, ou un contrat qui la lie avec un mec qui s'appelle Flack, et dont on va très rapidement comprendre qu'il est le type qui dirige plus ou moins le royaume de Los Angeles. C'est lui en tout cas qui crée tous les programmes et toute cette technologie qui tient les humains en esclavage technologique.
C'est une grosse bite en plus.
Et il se balade avec la bite à l'air.
Avec un holster à la taille, mais à poil. C'est tellement cool.
Exactement.
Oh, il n'y a plus de pudeur en 2098.
Je sais pas trop. C'est un peu difficile de raconter plus, parce que on sent très rapidement qu'on va partir dans. En gros, ce mec-là, Flack, va se servir d'un moyen de pression qu'il a sur l'héroïne pour l'envoyer.
Oh putain, oh là là,
il est tellement content, si vous voyez sa tête.
Ah là, il est si fier de lui. Il va envoyer Debbie et son mec à Tokyo pour sous le prétexte qu'une sorte de dictateur a pris contrôle de Tokyo et possède énormément de ressources naturelles qui permettraient de sauver la population de Los Angeles.
Oui, parce que la pollution, la gangrène,
voilà, exactement. Pendant que les gens sont en train de regarder les internets, le monde va mal, hein, le réchauffement climatique bat son plein, c'est la merde, hein, en gros. Du coup, je sais pas exactement encore vers où on va, mais pour le moment, ça s'oriente un peu comme son récit The Wake. Toujours, enfin ça c'était pas Remender, c'était Snyder, mais c'était Murphy au dessin. Un mélange de récits écolo, futuriste. il se passe plein de choses, donc du coup et c'est assez difficile de tout résumer. Il y a de l'amour parce que effectivement entre Debbie et son mec qui est complètement connecté subsiste le souvenir de l'histoire d'amour qu'ils ont créé depuis qu'ils étaient tout petits. En gros, elle, ça a été un peu sa formatrice à la vie, et jusqu'à ce que ce mec tombe finalement dans les excès de la technologie, mais qu'elle reste accrochée à lui parce que c'est la seule chose qui lui permet de s'ancrer encore à la réalité. On dirait il y a une histoire d'amour très 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 forte, ouais, qui l'unit, elle, à lui. En tout cas, on a l'impression pour le moment que c'est une sorte d'amour à sens unique, mais tu sais qu'il y a des moments où
c'est un légume pour l'instant, le gars.
C'est un légume, ouais, sauf à des moments où c'est plus du tout un légume, et voilà, exactement, et que ça pète des plombs. Donc du coup c'est que cette violence parfois qui sont assez hallucinants et qui sont toujours très 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 tellement bien illustrés par, oui, Murphy, quoi, qui a un sens qui a un dynamisme en fait dans son trait, qui a un sens du rythme. Alors là, lui, il a pas besoin d'effets spéciaux, tout est là, c'est toujours plus précis. Enfin, après The Wake, après Punk Rock Jesus, on se dit putain, le mec il en a encore sous la botte, et il arrive à proposer des trucs assez dingues, et tout en restant très très influencé manga, là, pour le coup. Effectivement, je pense que ça s'est jamais autant ressenti, ouais, que dans Tokyo Ghost. Bon, le Zanka en même temps s'appelle Tokyo Ghost. Oui. Il garde sa patte si particulière. Il y a des choses aussi qui me rappellent ce qu'il avait fait avec Morrison dans Joe the Barbarian, visuellement, avec tous ces univers qui se télescopent un petit peu. Dès qu'on commence à arriver à Tokyo, là ce qu'on ne voyait pas sur la première issue, c'est-à-dire toute la végétation, toute la technologie qui se télescope avec, oui, la nature, tout ça, c'est vraiment très très bien fait, très bien vu. Donc voilà, je peux que vous le recommander, parce que, oui, ça, pour l'instant,
là,
ça m'a complètement...
En 10 minutes, t'as réussi à parler de genre 29 aspects différents de, ouais, de la fiction.
Ouais,
en fait.
Ouais, mais parce que c'est hyper difficile, c'est tellement dense, que c'est difficile de tout résumer. Du coup, je vais juste vous le conseiller, voilà, et je veux bien avoir la vie.
On va voir
ce
que les autres en pensent. Du coup, Ben.
Alors, je vais pas répéter ce qu'a dit Joe, parce que je suis d'accord avec lui sur son avis. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est tellement dense que je pense que chaque lecteur peut le voir sous un angle différent. Ouais. Et en fait, sans contredire ce qu'a dit Joe, moi, je verrais plutôt ça comme le monde est pourri par la technologie, c'est ultra violent, la drogue, etc. Mais plutôt que de voir ce monde avec des gens dedans, moi j'ai vu ces deux personnages et leur histoire d'amour dans ce monde. C'est-à-dire que pour moi, c'est tu peux te dire que c'est la ville et le monde qui est pourri et que c'est lui le personnage principal, mais moi j'ai plus vu ça comme ces deux personnages qui essayent de s'aimer. Elle, en tout cas, elle essaye de le récupérer parce que, comme on a dit, il est complètement lobotomisé.
Il est parti.
Et du coup, moi, je vois ça comme pas une comédie romantique, hein, dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment une histoire d'amour qui essaye de perdurer, qui, ouais, essaye d'être sauvée dans un monde complètement pourri. Ce qui veut dire, enfin, ça veut pas dire que le reste est inintéressant. Bien au contraire, hein, tous les personnages sont intéressants. Il y a une certaine critique de la société, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais voilà, moi, j'ai décidé un peu malgré moi de le prendre comme ça.
Non, mais j'ai continué sous cet angle-là. C'est un angle de lecture tout à fait possible. Je vais rebondir rapidement. Ouais, je suis désolé, mais juste effectivement, quand je disais, c'est une série de Remender. Donc ça commence comme du Remender, ça vous plonge dans le cœur de l'action, vous savez pas exactement où vous êtes et tout. Je pense que si Adrien avait été là ce soir, il aurait peut-être dit qu'il a pas aimé, parce que ça peut
ah oui, il aime vraiment pas les mises en place trop longues.
Moi, il aime pas les mises en place trop longues, et il aime pas surtout les comics où ça commence et où t'es perdu, tu sais pas où tu vas, et ça met plusieurs ish. Là, il faut prévenir les auditeurs et les auditrices que vous allez mettre quand même un petit moment à comprendre tous les tenants et aboutissants du truc.
C'est comme pendant votre premier vol spatial, vous allez forcément vomir. Là, c'était voilà, pareil. Vous amène dans un endroit.
mais je demanderai à Adrien d'ailleurs de faire un œil.
Là où c'est intéressant, c'est que je trouve que la narration est bien exploitée. Dans tous les comics, il y a la narration dans les petites cases, etc., du personnage principal. Mais je trouve que, enfin, moi en tout cas, c'est peut-être personnel, mais je l'ai vraiment perçu comme ça. Comme si, en fait, la narration est faite de sorte que c'est. Tu vois, je l'imagine dans un film où t'as la voix off de la personne, une voix un peu désabusée, un peu rauque, tu vois, comme un peu chez Sarah Connor.
Cette ville de merde.
Ouais, voilà, un peu comme ça. Peut-être un petit peu moins masculin, mais voilà. Et en gros, du coup. Effectivement, il y a beaucoup d'infos à gober, mais c'est fluide. On apprend à connaître le monde dans ses yeux, et c'est hyper cool. Et juste, je termine avant que Zef parle, pour le dessin, donc pas besoin de redire que c'est sublime.
Pas besoin de le dire.
Juste, le petit reproche que j'ai à faire à Sean Murphy, c'est que vu qu'à chaque fois son style, ça fait un peu BD passé, tu sais, les couleurs sont un peu fades. C'est pas grave, mais juste sur le sang, qui quand même est important, puisque l'ultraviolence, j'aime bien ses graphiques, il est un peu orange, et ça me fait un peu chier. C'est pas très grave.
Ah, tu penses qu'en fait, ils ont mis le filtre sur toute la page.
Bah, je sais pas, mais en
ils
tout cas.
Fait attention à des détails.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est cohérent avec son style. D'accord. Mais du coup, ça fait que le sang est un peu orangé et ça me fait. J'aurais bien aimé du sang un peu plus rouge.
C'est un détail, effectivement. C'est important.
Oui, mais c'est important parce que
j'aime quand le sang est vraiment.
Voilà. Vu que c'est ultra violent.
Je me suis déjà ouvert le pouce une fois et vous.
Vu que c'est ultra violent et que la violence a vraiment sa place graphiquement, je trouve ça dommage que ce soit pas. Voilà, mais bon, c'est personnel.
Et pour conclure sur cette seconde revue, on va prendre l'avis de Zef.
Il y a plus rien à dire après.
Ok.
Ça,
en fait. Non mais t'as aimé.
Enfin moi j'ai commencé. En fait j'ai commencé à le lire en numérique. J'ai arrêté. Enfin je sais plus pour quelle série mais Remender. Voilà c'est toujours pareil. J'ai arrêté. Je fais ok. Je vais l'acheter. Je vais attendre le premier TPB. Je l'achèterai quoi qu'il arrive parce que ça tue visuellement. C'est une tuerie. L'histoire elle part dans tous les sens mais ultra intéressante. Il y a plein d'historiques partout. Il y a plein de détails. Le gars ouais, le virus. Le gars sur son bras il a une manne de Nintendo, une stick d'Atari. Enfin il y a il y a tellement de trucs.
Ah oui, il y a plein de références à la pop culture, c'est clair.
Et alors, je voulais faire une petite référence à lui-même. Mais il y a un flipper Black Science à un moment.
Il y a un flipper Black Science, il y a un truc punk rock Jesus.
Ah, j'ai pas vu.
Ah oui, non, mais
il y a. Il se masturbe.
C'est génial. Non, non, mais c'est une vraie tuerie. Je comprends même pas qu'on puisse pas aimer. Mais je reviens sur ce que t'as dit sur Adrien. Il aurait pas du tout kiffé, je pense. Parce qu'effectivement, faut lire plusieurs fois le premier issue pour tout comprendre. Faut attendre le deuxième, troisième pour essayer de comprendre un peu plus où va peut-être c'est arriver l'histoire et encore c'est pas sûr parce que je m'appelais Rick Remender et de toute façon vous avez acheté mon comics.
C'est ça, mais grave.
Reciter Adrien et de toute façon voilà, mais c'est une vraie tuerie, achetez-le et lisez-le forcément.
Donc c'est chez Image Comics.
Ah oui,
c'est...
j'ai même pas dit que c'était chez Image, mais bon, a priori, les gens s'en doutent.
Remender, de toute façon, il fait que Image, non?
Non, Remender, il est aussi chez Marvel.
Ah bah voilà.
Troisième, oui, il a fait Death of Wolverine par exemple.
Mm-hmm. Non, mais ça, il aurait pas dû.
Genre, il était sourd.
Non, mais il a fait un très chouette run sur Agent Venom.
Mais il a fait surtout Uncanny X-Force. Bah, oui, absolument lire.
Et voilà, c'était Remender Outcast. À la semaine prochaine.
Non, il reste encore d'autres revues à faire.
Ah non, mais je croyais que
le gars n'a pas compris ma blague.
D'autres Remender.
Ah non, bah oui, bien sûr. On va parler. Non, mais il y en a plein. Dans trois semaines, il y en aura un nouveau.
Oui, bien sûr.
Il est déjà dans la liste. Alien Vampire est là.
Ah, la qualité est au rendez-vous.
Attends. Alien Vampire. Et là, je prends ma voix de merde. Hein. C'est Zeph qui vient la présenter. C'est une série donc
cette fois, arrête.
Dynamite Publishing qui est sortie chez, qui est un imprint comme on dit pour les éditeurs de Dark Horse, hein, que vous connaissez bien. C'est quoi cette musique? Ça me fait pas les oreilles.
C'est Alien.
Et non.
Alien 2.
C'est écrit par Corina Berco et illustré par Javier García Miranda.
Miranda. Si.
Et un truc très important, parce que vous savez, je vais chercher des informations sur qui colorise, qui fait le trajet et tout ça. La colorisation a été faite par Inlight Studio. Donc en fait, tu ne sais même pas si c'est une personne ou 53
stagiaires.
Ou un ordinateur.
Ou un stagiaire.
Ou des stagiaires. Algorithmes.
Ou un stagiaire, parce que franchement, c'est pas ouf.
C'est ça.
Allez, c'est ça qui présente.
Alors avant tout, je m'excuse.
Bah oui, merci, ouais.
Je m'excuse auprès de mes comparses.
Aïe.
Non, alors, comment dire? En fait, je vous promets, parce que ça va faire 3 ou 4 émissions que je présente que des séries de merde.
Ah, c'est vrai, mon pauvre dieu.
Non, mais volontairement, je peux les choisir en disant, ça a l'air cool. Je vais arrêter après, je ferai des essais.
Donc, je suis sûr qu'il y a Remender.
Avec Corina Becco, donc pour commencer par l'auteur, donc c'est une nana qui a bossé sur, avec pas mal d'éditeurs, mine de rien, elle a fait pas mal de trucs. Elle a bossé chez Marvel, chez Boom, évidemment chez Dark Horse beaucoup aussi. Elle a fait du Star Wars Legacy, elle a fait du Planet of the Apes, elle a fait Deep Gravity, elle a fait pas mal de trucs. Javier García Miranda. Je pense que le mec, ça doit être un double de moi, mais pour les comics, c'est-à-dire que le mec il est ultra pervers en fait, parce qu'il a bossé sur Alice in Wonderland.
Ah oui, d'accord.
Tu vois le truc.
Ouais.
Il a fait beaucoup de Vampirella, il fait Purgatory pour ceux qui connaissent.
Ah oui, d'accord.
Tu fais bien les nichons.
Fait alors du nichon. Du nichon.
Et du nichon et du décolleté, donc il a fait que ça, donc je crois qu'il est un peu bizarre.
Okay.
Voilà. On m'a demandé un petit historique de Vampirella rapidement, ouais. pour expliquer le personnage. C'est un personnage qui a été créé en 69 par Ackerman et Robbins. Grosso modo, c'est une être extraterrestre. Ça vient pas de la planète. Elle est sur une planète qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs.
Vampiros.
Docufu, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom bizarre. C'est la fille de Lilith, forcément. Fallait s'y attendre. Et sur cette planète, en fait, ils vivent. Tous les gens se nourrissent de sang, mais le sang coule dans les rivières, en fait. Donc ils vivent en buvant de l'eau pour eux normalement. Je crois qu'il y a eu un moment d'incident qui a fait qu'il fait toujours nuit sur la planète parce qu'il y avait deux soleils qui étaient.
Je suis désolé. Tu t'es tourné l'oreille parce que le bruit dans la musique.
Oui, oui,
d'accord, ça te fait peur.
Okay. Ça m'a pas fait peur, mais j'ai cru que quelqu'un tapait au carreau.
Non,
Excuse-moi,
Zé. Arrêtez d'interrompre, Zé.
Du coup, à un moment, donc, pour finir, il y a les astronautes qui arrivent sur la planète. Les vampires voient que les humains ont du sang en eux aussi. Et donc, du coup, ils envoient Vampirella pour essayer de voir ce que c'est cette petite planète qui s'appelle Terre.
C'est complètement débile, parce que imaginez qu'on voit des extraterrestres pédos. Est-ce qu'on va voir les dangers?
Le personnage date de 69, c'est-à-dire ça aurait pu être un film de Roger Corman. C'est complètement du cinéma bis.
Hyper dur, parce qu'il y a des milliers de séries, enfin des centaines de séries sur Vampirella aujourd'hui. Ouais, ça grave. Existe, ça continue. Il y a encore des crossovers de malades. J'en ai parlé sur le truc steampunk, là, enfin, Legendary. Bon, bref, c'est un personnage qui perdure. Je pense que 80% de l'intérêt du comic se passe dans la couve, parce que les couves sont toujours très belles. L'intérieur est toujours moins intéressant en termes de dessin, d'histoire. Bon, j'exagère un petit peu parce qu'il y a quand même des histoires qui sont assez cool, mais encore une fois, enfin comme je le disais en off, c'est un personnage qu'il faut aimer pour lire.
D'accord.
Soit t'aimes visuellement, soit t'aimes le thème, soit t'aimes juste l'espèce de badasserie qu'on essaie de mettre à l'intérieur. Moi, j'apprécie ça, c'est comme je lis Red Sonja parce que c'est un personnage qui est badass, qui a des bouses et que j'aime bien. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, comme dirait Daniel, c'est pour un truc pour gothique tatoué qui est percé. Voilà, je l'assume complètement. Mais donc là, voir encore un crossover, avec Alien, ça m'intéressait forcément. Je crois que j'ai lu tous les trucs, j'ai acheté tous les omnibus de Alien crossover quelque chose. Donc l'histoire, donc c'est Vampirella. Dès les premières pages, donc on retrouve un homme qui est en bure de moine, qui court dans des couloirs un peu bizarres, qu'on sent être un espèce de monastère mais un peu lointain. Il est poursuivi par une créature qui se présente comme un alien. Je présente pas l'alien, Eric. Tu sais qui c'est?
Oui, xénomorphe, tout ça.
D'accord.
Midi-chlorien.
Okay. Très rapidement, donc l'homme se retrouve coincé, l'alien arrive vers lui, l'homme enlève sa capuche, on voit que c'est un vampire, le vampire essaie de se défendre, il essaye de mordre l'alien comme un con, c'est du sang acide, il crève comme une merde sous acide. On se retrouve bien plus tard, il y a pas de date, mais j'imagine qu'on sait le futur très lointain, parce qu'il y a une base des humains qui sont venus sur Mars, qui ont mis une base martienne, du coup, qui trouve un espèce de souterrain bizarre avec plein de, j'adore cette musique, merci, qui trouve ce terrain qui paraît très grand, en tout cas, qui est un espèce de temple qui est sous Mars, construit par des gens bizarres. On devine déjà que c'est des vampires. Et les scientifiques donc appellent quelqu'un. Donc Vampirella arrive en consultante,
salut,
freelance, elle a monté sa petite boîte.
Comme Christina Cordula.
Moi, c'est rien.
Bah, c'est ça, un peu.
Je connais pas la référence, désolé.
Donc Cordula. Pardon, vas-y.
Je peux finir quoi.
Mais oui, moi je t'écoute à fond là.
Donc voilà, les scientifiques appellent donc Vampirella. Elle arrive en espèce de consultante qui essaye de lire les inscriptions. Elle voit que c'est du Nosferatu, machin et tout. Évidemment, comme c'est un truc avec des aliens, dès la première rencontre, ils sont défoncés. Facehugger, boum dans la gueule. Vampirella prend le facehugger dans la gueule. Elle tombe inconsciente. Il y a qu'un seul mec qui reste. Le chestburster arrive derrière, bim, il y a un truc qui sort de Vampirella, et voilà. Et après, derrière, c'est juste une course-poursuite sur le reste des numéros. Et il se passe absolument plus rien d'intéressant à part voir des aliens plutôt bien dessinés. Le reste, très mal dessiné ou pas très joli, en tout cas. Vampirella qui est même pas à poil, donc il n'y a aucun intérêt de ce niveau-là. Désolé.
Voilà.
Qu'est-ce que je.
Pas grand chose.
Je finirai de lire parce que j'ai envie de voir la fin.
Oh, l'autre, il va finir, putain!
Mais non, mais attends, à la fin du 3, t'as quand même la Mother Queen, quoi.
68 numéros.
Non, ça va être sur 5 ou 6 numéros maxi en général, ça dure pas longtemps. Donc voilà.
Ben, quelque chose à dire?
Moi, je vais aller vite, je vais lire ce que j'ai écrit, ça te va?
Vas-y.
Alien Vampirella, c'est vraiment pas très bien. Scénar basique de n'importe quel mauvais film de monstre ou de tueur. Espoir de valeur ajoutée avec Vampirella et ou versus. Enfin, Vampire versus Alien. Qui donnerait des combats cool, mais en fait non, c'est chiant de ouf, on n'a jamais peur pour les persos, il y a aucune tension.
Bien sûr.
Et comme l'a dit Zef, le seul avantage de Vampirella, en tout cas au niveau du dessin, ça pouvait être qu'elle soit un minimum dénudée, et en fait elle est en combinaison de ski, donc non.
En fait, on dirait le scénar de Prometheus, mais avec un vampire dedans.
Ouais, donc c'est vraiment pas très bien. Et du coup, j'ai mis les plus, il y a des aliens, les moins, tout le reste. Voilà, salut.
Écoute, j'ai envie de dire exactement la même chose. J'ai trouvé ça catastrophique. J'étais catastrophé. Donc, je sais pas quoi dire. En fait, je me suis fait chier de ouf. J'ai de la sympathie pour Vampirella. J'aime beaucoup les aliens. Donc, a priori, deux ingrédients qui auraient été censés me plaire.
Ouais.
Les couves sont chouettes.
Ah ouais, ça c'est clair.
Ouais. Les couves sont chouettes. Faut bien l'avouer. Hein, les couves sont ok.
Qu'est-ce que j'ai dit, 80%
ouais, voilà, c'est là, hein, les couves sont ok. Le mec, tu sens que le dessinateur s'est un petit peu donné plus de mal quand il doit dessiner des aliens que sur tout le reste.
Il a décalqué.
Il y a le copyright qui a dit, non, tu lui fais toutes ses écailles.
Il y a un personnage n'a jamais la même face d'une case à l'autre. Mais genre jamais. Même Vampirella, elle a jamais la même gueule. T'es là, genre, mais c'est pas possible.
Elle ressemble à la brune de Archie.
Ouais,
de temps en temps.
Ouais.
Encore, je crois que c'est insulté Archie.
Ouais, franchement, franchement, c'est chaud.
J'ai une question pour les Alien Fag. Donc, on t'a expliqué que Vampirella s'était mangé un alien et que du coup, après, c'était sorti de sa poitrine, etc.
J'attends de le voir apparaître.
Voilà, parce que. Je le dis vite fait, si je me trompe pas, un alien qui donc prend les capacités de son autre. Genre à un moment, il y a un alien chien dans Alien 3, je crois.
Il y a un alien chien, il y a l'alien Predator.
Voilà,
y a
donc du coup, normalement, l'alien de Vampirella devrait être un alien vampire.
Oui.
Bah ouais.
Donc, donc il peut sucer l'acide.
Pour spoiler le 3 pour ceux qui.
Oh non, ne spoil pas, c'est Pyriel, c'est dommage.
On voit la Mother Queen qui arrive. Alors, je me dis peut-être qu'ils vont faire ça. Ça aurait plus aucun sens derrière, mais c'est peut-être la.
Une reine vampire.
Ouais, une reine vampire.
Non, mais je pense que Joe a raison.
Il y avait les fesses.
Joe a raison. En fait, c'est vraiment, le mec qui a juste voulu dessiner des aliens. Et non,
mais je suis
Et je tiens à signaler un truc qui, enfin, une erreur technique. Bon, alors je sais, c'était pour la faire sortir d'entre les seins de Vampirella, mais elle se fait chest buster entre les nichons. Alors que normalement l'alien sort du bide, quoi.
Et en fait c'est mal fait parce qu'on voit pas tous ses boobs en fait.
Mais oui, c'est nul. Lui a chier, lui a chier.
Bon ben c'est un comics qui est sorti quelque part à un certain prix. C'est... Voilà.
J'ai oublié son nom.
Chez Dark Horse, acheter Hellboy, c'est mieux.
On se retrouve juste après cette mini réclame.
La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapa. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la Gapa, sur Radio Kawa.
C'est la deuxième partie de l'émission, il s'agit de du focus. Cette semaine, ils ont décidé de vous parler de... Pourquoi la musique de Superman?
Je sais pas, parce que j'ai pas de musique d'Hellboy.
T'aurais dû avec musique de Lovecraft.
Bah ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de musique qui illustrait les...
Bien sûr. Les romans. Donc on va pas parler, vous avez deviné deux.
Attends, je vais mettre un autre truc, voilà.
Hellboy,
rien à voir.
Et de l'univers de son créateur, le Mignolaverse. Alors, Mignolaverse, est-ce que c'est une... une exagération ou non. Est-ce que c'est vraiment
on pourrait croire que c'est une exagération, mais on va s'apercevoir qu'en fait,
Pense que c'est un des auteurs qui est le plus à même d'avoir un univers à son nom.
Ouais. D'accord. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Pour cette revue,
il va se passer quoi?
Bah ouais, on va expliquer maintenant. Ouais.
Non, mais dans le déroulement.
Je crois qu'il veut juste expliquer ce qui va se passer.
Voilà,
il veut juste présenter son émission.
Faites donc. Ça va être trop bien quand je vais ralentir ça à la fin.
S'il vous plaît. On a lu trois séries de la toute première, l'originale. Donc c'est Seeds of Destruction.
Absolument.
On a lu ensuite The Corpse.
En fait, c'est un peu après le début.
Ouais.
Mais c'est juste une des meilleures. Enfin, selon moi et selon plusieurs classements, c'est une des meilleures histoires courtes de Hellboy.
Et enfin, pour illustrer l'univers Mignolaverse, on a lu The Amazing Screw-on-Head,
qui est un one-shot
tout à fait
écrit et dessiné par lui.
D'accord, je vous laisse.
Pour être tout à fait clair avec nos auditeurs et nos auditrices, j'ai été malade comme un chien cette semaine.
Oui, on est tous un peu...
Il faut que je rende à César ce qui est à César. Ben a tout bien préparé tout seul. Et donc il va se charger de la majeure partie de ce focus.
Mais tu vas être mon Guy Carlier, tu vas rebondir.
Voilà, je vais rebondir de temps en temps. Mais je te laisse le micro parce que t'as bien bossé.
Alors on s'est dit, parce qu'on a quand même préparé le truc ensemble malgré tout, qu'on allait parler du personnage de Hellboy,
ouais,
qui est quand même à la base du Mignolaverse, de Mike Mignola un peu en transparence sans faire une biographie Wikipédia, et ensuite un petit vraiment une courte liste des titres du Mignolaverse en expliquant un peu ce que c'est, comment c'est relié, etc. Ouais. Donc Hellboy, un jour en 1993 à la San Diego Comic Con, Mike Mignola dessine une espèce de mini revue qui s'appelle le San Diego Comic Con Comics tout simplement, qui distribue je pense gratuitement dans ses conventions. Voilà. Mais c'est des petites histoires. Il y a des petits, voilà, c'est ça. Donc il a dessiné un démon qui s'appelait pas encore Hellboy, qui avait juste le nom sur sa ceinture, mais un peu comme ça, genre je vais dessiner un personnage, et il s'est pas dit qu'il allait en faire quoi que ce soit. Seulement ça a eu du succès et du coup les fans en tout cas ont trouvé ça cool. Et un jour il s'est dit tiens, j'aimerais bien raconter mes propres histoires, parce qu'il a quand même une imagination assez dingue. Mais j'ai pas envie de prendre un personnage de Marvel ou DC, enfin des personnages qui existent déjà, qui pouvaient complètement s'approprier. Il s'est dit, je vais créer mon propre personnage, ou en tout cas mes propres personnages pour raconter mes propres histoires. Et là, juste pour la petite anecdote, il s'est dit qu'il allait créer une équipe de héros. Et en fait, il a pas trouvé de nom assez cool, donc du coup, il a créé un personnage tout seul. C'est ça, assez cool.
D'accord.
Voilà.
Il s'est retiré le travail de devoir trouver un nom d'équipe. Juste
voilà, il s'est dit bon bah j'ai pas de nom cool donc je vais faire un mec. Et donc du coup il a repris, bon j'ai pas son cheminement de pensée, mais en tout cas il a repris son personnage de démon qui s'appelle Hellboy, dont la première série régulière est sortie en 94, qui s'appelle, tu l'as dit, Seeds of Destruction.
Est-ce que tu t'entends dans ton casque quand tu parles, Benjamin?
Ouais, mais j'ai qu'une oreille. Enfin, le casque en tout cas, je suis pas Van Gogh.
Mets-le bien devant ta bouche.
Ah, tu fais bien Louis de Funès. Donc, non mais c'est bon.
Pas fait gaffe.
Donc, je raconte un peu le début de Seeds of Destruction. Non mais c'est bon, Zef. Je raconte le début de Seeds of Destruction, qui est la genèse du personnage et donc du Mignolaverse. Donc, en 44, à la fin, presque la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a envie de gagner la guerre et pour ça, il crée une cellule de sciences occultes et de forces occultes gérées par Himmler, son pote.
son pote d'orthographe.
Son pote d'orthographe, en tout cas. Qui donc monte le projet qui s'appelle le projet Ragnarok, en deux mots.
Ragnarok.
Ouais, Ragnarok. Ouais.
Ah, je fais le casse-couille, hein, désolé.
Non, mais parce que en train de boire, j'ai failli.
J'ai fait espagnol au lycée, c'est pour ça.
Ah, voilà. Ragnarok.
Les Ragnarok.
C'est dégueulasse, putain.
J'hésitais. C'est les cailloux de Ragnar.
Et après, on dit que je coupe, hein, bravo. Donc Himmler qui donc a pour tâche de retourner les forces de la guerre. Putain, non, mais sans déconner.
Continue.
On me reproche de couper, mais par contre, c'est le pire. Donc Himmler, qui a pour tâche de retourner le sort de la guerre pour que les Allemands gagnent, décide de s'octroyer les services de Rasputin, qui donc est un personnage historique dans la vraie vie, mais que Mignola s'est approprié pour en faire un moine sorcier qui a des pouvoirs assez mystiques. Bon, ah oui, j'ai oublié mon petit disclaimer, c'est que pendant tout mon truc, je vais parler de plein de personnages et de plein de notions. Ça me fait mal parce que je suis obligé d'en parler en deux phrases alors que c'est ultra riche et qu'on pourrait faire une émission sur chaque personnage. Ouais, non, je préfère le dire, ça me fait du mal.
Oui.
Voilà. Donc Rasputin, pardon, qui donc a l'idée de faire un rituel afin d'invoquer Amun-Un-Rama, qui en fait est le vrai nom de Hellboy, qui donc a dont la prophétie est de ramener Ragnarok, donc l'enfer sur Terre, à la fin des temps. Donc il fait ce rituel.
Tu te demandes vite fait comment en quoi c'est gagner la guerre,
oui,
pour Icar.
Voilà. Enfin, parce qu'ils se disent qu'ils vont déclencher l'enfer sur Terre.
Ils vont détruire les alliés avec un démon.
Il le double plus ou moins en fait en voulant en se servant d'Hitler et de son truc pour faire ce qu'il veut. Quoi.
Et donc il fait ce rituel, ça fonctionne. Sauf que ce qu'avait pas prévu Rasputin, c'est que bon, c'est parti en baston évidemment. Ce qu'il avait pas prévu, c'est qu'en fait l'armée américaine qui est présente sur cette île en Écosse, je crois, va récupérer ce petit démon mi-homme, enfin ce démon, cette créature mi-homme mi-démon, et donc la garder avec elle, et donc ne va pas du tout compléter les dessins de Rasputin, car en fait Hellboy, donc nommé par Trevor Broom, enfin Broom c'est son pseudo, son nom c'est Breton Hall, mais on l'appelle Broom, il va l'élever comme son propre fils, et une fois adulte, Hellboy fera partie du BPRD, donc c'est Bureau of Paranormal Research and Defense.
On sera la même compte avec la sortie de Hellboy and the BPRD, que c'est dès l'adolescence en fait ça va devenir un rookie du BPRD.
Et donc ça va devenir bien plus tard. Il est aujourd'hui, en tout cas, il l'appelle l'enquêteur paranormal, enfin le meilleur enquêteur paranormal du monde. Donc, voilà, c'est voilà. C'est ça. J'ai un peu fait ce truc-là. Oui, c'est ça. Donc au BPRD, il est accompagné principalement. Il y a beaucoup de personnages, mais principalement de Lee Sherman qu'on a vu dans les films, qui fait de la pyrokinésie, et de Eb Sapien. T'as pas vu les films, ok.
Si, mais je me rappelle plus.
Ça, c'est la seule meuf du film. Bon, c'est pas grave. Et Eb Sapien, qui en fait est un amphibien, un personnage.
Un homme poisson.
Ouais, un homme poisson, on peut dire ça très très simplement.
Je me rappelle que
qui mange des œufs pourris.
Ça. Oui. Le BPRD qui lutte contre les forces du mal, je dis vite fait, donc les nazis, qui sont quand même des forces du mal, même si c'est pas occulte. Rasputin, Baba Yaga, qui va être à l'origine en fait, c'est un des gros méchants. Ça est à l'origine de plein de sous-méchants qui vont dans les aventures d'Hellboy. Mais surtout, le plus gros méchant, c'est Ogru Jahad. C'est en fait, pour faire simple, les adorateurs de Lovecraft vont reconnaître ça, j'en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. En gros, c'est ça s'appelle le dragon de la révélation. En fait, c'est sept entités qui sont à l'heure actuelle emprisonnées. Enfin, je sais pas où trop ça en est dans Hellboy.
Ce sont des grands anciens, quoi.
C'est un peu ça.
Voilà.
C'est, en gros, c'est le, la force maléfique, ou en tout cas, enfin, c'est la force surnaturelle la plus puissante de l'univers de Mignola, en tout cas.
Est-ce que c'est, enfin, pour ceux qui ont lu le tout premier arc de Hellboy, est-ce que c'est bien cette espèce d'entité ancestrale que Rasputin invoque pendant 20 pages?
C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ça qui va créer beaucoup de scénarios qui, en fait, parce que souvent, les méchants, même insignifiants, pour but d'atteindre ces entités-là, et donc dont sont méchants, font des conneries. Enfin, en gros, c'est l'origine du mal.
Voler ce sac à cette dame pour atteindre la discipline. <C'est vrai, ça. rire>
Mais c'est pas paranormal, du coup, c'est pas Hellboy qui s'en occupe. Mais ok, d'accord, si tu veux. Juste, je fais un petit topo, même si je pense que tout le monde connaît Hellboy. Juste, il est grand, il est rouge, il ressemble un peu à un singe, d'ailleurs, il a une queue. Il a les sabots fendus, un peu comme le diable, et il a surtout un bras droit en pierre. Je vais en parler un petit
des
peu.
Des cornes taillées aussi.
Oui, des cornes. Enfin,
en fait, il est censé avoir des cornes, mais il les lime.
C'est lui, d'accord.
Il a deux espèces de palais bretons sur le front. Et souvent, il a un
de puissance 4.
Souvent, il a un imper beige. Il a un imper beige. Donc voilà, si ma description fonctionne, vous voyez exactement de qui
une
je parle.
Une sorte de Derrick rouge.
Avec le visage de Ron Perlman.
En fait, une sorte de Derrick rouge, mais pas avec les cheveux blancs, pas avec des lunettes et sans costard.
Derrick aussi, complètement.
Et avec le visage de Ron Perlman.
Je finis la présentation du personnage en parlant vite fait de ses pouvoirs. Donc il a une force de malade, il résiste beaucoup aux blessures, il craint pas trop le feu.
Il a une véritable connaissance de l'occulte.
Il a une véritable connaissance, absolument. Il a, en fait, en gros, il a.
Mais qui est pas dû à son héritage, qui est dû à ses recherches.
Oui et non, en fait. C'est-à-dire que son père.
Vas-y.
Son père lui a tout appris, il est devenu enquêteur grâce à son père, parce que son père était, j'ai spoilé, mais c'est comme ça, était un expert des forces occultes, et en même temps, il a des connaissances innées du fait qu'il a grandi en enfer, même s'il s'en souvient pas. Oui. Du coup, il comprend certains langages, et il y a certaines forces occultes qu'il comprend un peu naturellement.
D'accord.
Mais, on va dire que ses capacités les plus...
intellectuelles, les plus terre-à-terre.
Exactement, ouais, voilà, c'est de l'enquête, c'est des connaissances, c'est des livres, c'est des artefacts, c'est tout ce genre de trucs. Et donc oui, je finis juste donc sur sa main droite qui est quand même assez importante. En fait, c'est une main en pierre. Et en gros, j'ai parlé tout à l'heure de Ogru Jahad, qui donc est le gros méchant de l'histoire, qui en fait a été créé et emprisonné par la même personne qui s'appelle Azazel, qui en fait est le père biologique de Hellboy. J'essaie de pas trop spoiler, mais voilà. Et en gros, le comment ? Cette main. Alors attends, je crois que je suis en train de dire des bêtises. C'est pas Azazel qui a créé et emprisonné. Je sais plus le nom de cette entité, mais a créé et emprisonné cet
ancien,
voilà. Et Azazel, donc qui est le père biologique de Hellboy, a récupéré cette main, en fait, qui a été récupérée d'âge en âge quand l'être en question est mort, et l'a greffé, on peut dire ça, sur son fils en enfer.
Okay,
c'est bon, un peu pour lui dire, tiens voilà, c'est un peu Naruto qui a le démon greffé en lui. Un peu, okay. Non mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un truc hyper puissant, c'est une arme qui est capable de, techniquement, de réveiller ce Ogru Jahad, donc de déclencher l'enfer sur Terre, donc je vais le donner à mon fils parce que je sais qu'il en fera bon usage, en gros.
D'accord.
Grossièrement, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc en gros, Hellboy a le pouvoir de, potentiellement, de tout défoncer. Et en plus de ses pouvoirs, il a toujours un gros flingue sur lui, il a toujours plein d'artefacts, de l'eau bénite, des croix, des talismans, des charmes,
des charmes,
tu veux. Voilà, c'est pas un ouf de la baston, mais en fait il a tellement dans la merde, il est tout le temps dans la merde, en train de s'attirer des ennuis, qu'il arrive toujours en faisant de l'impro à se sortir des galères, donc il a une connaissance du terrain et il sait toujours s'en sortir. En gros,
il est à la fois maladroit et malin.
Il est pas maladroit, c'est juste qu'en fait c'est pas un expert en arts martiaux, si tu veux, mais il sait mettre des patates.
Non, mais
parce
bon,
qu'il a dû en mettre.
Il met des patates de fin, hein,
voilà,
quand même,
il sait mettre des patates parce qu'il a dû en mettre toute sa life, et donc voilà. Joe, tu voulais peut-être dire un truc sur le perso avant que je passe à...
Oui, ce qui est intéressant avec ce perso, enfin l'un des intérêts du perso, c'est que il est effectivement toujours tiraillé entre sa nature infernale et ce que les humains ont essayé de faire de lui, à savoir un défenseur de l'humanité. Et du coup, malgré le fait que Hellboy a été élevé donc dans des principes de bonté et que donc c'est un personnage qui, voilà, d'humanité, c'est un personnage foncièrement bon. Il a malgré tout quelque part au fin fond de son esprit, en fait, il sait d'où il vient, et il y a une petit à petit, au fur et à mesure que cette série se développe, il y a une sorte de côté de plus en plus mélancolique qui émerge au fur et à mesure qu'on comprend que Hellboy a une sorte de destin qui de toute façon le dépasse complètement, et que petit à petit lui s'en rend compte parce que ce destin va s'imposer à lui petit à petit, et c'est ce qui fait pour moi l'un des intérêts principaux de ce personnage, c'est justement
justement le grand écart immense qu'il y a entre son humanité et son destin qui dépasse, enfin qui a un côté presque universel en fait.
Tu parlais de il est élevé par des humains, mais du coup est-ce que c'est son éducation qui fait qu'il ait vraiment envie de d'aider les autres humains et tout
exactement.
Et c'est, il y a pas un truc qui l'attire vers le, enfin entre guillemets, le mal ou l'enfer, parce qu'on le voit des fois, il dit ouais je suis pas content, on voit que ses yeux sont rouges sur le papier, il vient un peu plus fort, et en tout cas plus téméraire en tout cas, enfin
il a pas de, je pense qu'il est neutre au moment où il est en fait il a grandi en enfer mais il s'en souvient pas, donc je pense qu'il se... il peut pas se servir de tout ça. Du coup quand il est, quand il arrive sur Terre, il est neutre et il prend le chemin de l'éducation qu'il a reçu quoi.
D'accord.
Juste donc effectivement on a plus beaucoup de temps, donc je voulais juste dire qu'en fait ce qui est assez dingue pour un peu paraphraser ce qu'a dit Joe dans l'univers de Mignola global, même pas seulement Hellboy, c'est qu'il y a une espèce de mélancolie, un peu une tristesse, que ce soit dans l'écriture, dans les personnages, dans les scénarios ou même dans les dessins, parce qu'il écrit et il dessine. Il y a toujours des persos torturés, le dessin, enfin, c'est très dur de...
Ou perdus, ou qui savent plus vraiment qui ils sont. Il y a énormément de fantômes. Il y a beaucoup de fantômes.
Mais pas forcément des méchants, hein.
Ça peut être des âmes. Des âmes perdues triste, et tout. Et du coup, c'est ce qui fait l'un des gros intérêts de la série. C'est-à-dire que, au-delà des références à Lovecraft, à Poe et tout, Mignola a effectivement développé une sorte d'atmosphère qu'on ne retrouve, que dans Hellboy.
C'est-à-dire, c'est quoi, c'est de l'horreur,
en fait, ce qui est assez...
Non, c'est pas de l'horreur.
En fait, c'est du fantastique, c'est ésotérique. En fait, comme l'a dit Joe, donc évidemment Lovecraft pour tous ces trucs là.
Parce que c'est ça qui transparaît beaucoup dans le premier en fait.
Les références à Lovecraft sont assez écrasantes.
Il y a des monstres, des gobelins, des sorcières, il prend beaucoup aussi au folklore européen ou africain.
Alors, on arrive sur la légende du roi d'Arthur à un moment, il y a plein de choses qui se télescopent.
Tout ce qu'il veut, on va dire, mais il en fait son propre truc, c'est-à-dire que il dit bon bah voilà, je prendre des gobelins, mais ça va devenir ses gobelins à lui, quoi, même si tout le monde connaît les gobelins ou différentes inspirations.
C'est comme la Baba Yaga, on parlait tout à l'heure de Baba Yaga, c'est une sorcière russe. C'est russe.
Les pays de l'Est.
Ou peut-être roumaine.
C'est un croque-mitaine.
C'est à droite.
Il en fait son propre truc, et même Rasputin, qui est un personnage historique, bon, il y a plein de légendes sur lui, etc., mais pour moi, quand je vois Rasputin, je me dis pas, tiens, il a pris le mec historique, et... Non,
tu
c'est
penses
pour
à Bonnet comme tout le monde.
Pour moi, c'est le Rasputin de Mignola. Et donc, juste pour dire que son dessin sert complètement cette espèce d'imagination torturée qu'il a. Pour moi, je pense que je peux... Enfin, vraiment, je crois que c'est mon artiste préféré parce que je le trouve très complet. Et c'est aussi en ça que je disais que s'il y en a bien un qui peut avoir un nom à son... Enfin, un univers à son nom, c'est lui. Parce que je trouve que tout ce qu'il a pu faire, même quand c'était pas lui... Enfin, tout ce qu'il a pu faire, ou en tout cas enfanter, même si ça a été repris par d'autres auteurs, ça... Techniquement, ça appartient au Mignolaverse, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire ça, même Mignola.
Tout est canon dans...
Exactement, et en fait, c'est même les trucs les plus éloignés, donc qui sont ni écrits ni dessinés par lui, mais qui sont un peu sa succession, ça rend... Y a jamais tu vas te dire « Oh ouais, ok, bon, ça aurait pu être dans Hellboy ». Non, c'est dans Hellboy, ça fonctionne. Ouais. Alors je sais pas, comme disait Joe, il met sa patte un peu par-ci par-là, il jette...
Tu sens que c'est quand même un mec qui surveille comment ça se passe.
Il a travaillé sur les films Hellboy, par exemple. Tu vois, et donc du coup je trouve que c'est hyper cohérent, et moi il me suffit juste de voir juste un dessin de Hellboy et j'ai envie, enfin de Hellboy, de
Mignola,
et j'ai envie de connaître, ça se trouve c'est un truc qu'il a griffonné, il n'y a rien derrière, mais je me dis putain, s'il y a une histoire sur ce personnage, je veux la connaître, même si c'est un squelette, on a vu 12 millions de squelettes dans notre vie, mais ce squelette là j'ai envie de savoir pourquoi il est comme ça, pourquoi il a un costard, pourquoi il a une tête, tu vois, et donc je trouve ça assez dingue. Donc moi je trouve ça beau, je trouve ça triste, je trouve ça badass de temps en temps, je trouve ça drôle aussi, c'est vraiment dur.
Et puis parfois émouvant, le personnage d'Hellboy finalement est assez émouvant dans son combat contre sa nature, quoi.
Complètement. Et donc juste pour terminer, je fais un petit un petit tour d'horizon sur le Mignolaverse. Donc il y a Hellboy, c'était le tout premier. Maintenant on est dans Hellboy in Hell, donc comme son nom l'indique, il est en enfer. Ensuite il y a eu El Sapien, donc je l'ai dit, c'est un mec qui team avec lui dans le BPRD, qui a ses aventures solo aussi. Il y a Lobster Johnson qui a fait partie. Lobster Johnson,
okay.
C'est son prénom.
Omar.
Exactement, c'est comme Omar Sharif.
C'est un héros de roman.
Ouais, d'accord.
Donc en fait, en gros,
roman de gare,
c'est un mec qui a fait partie du BPRD et qui en fait est un justicier dans les années 30 à New York, comme il y a plein de justiciers. La série BPRD qui maintenant s'appelle Hell on Earth, avec mon super accent. C'est les enquêtes du BPRD, mais sans Hellboy. Donc même si des fois il fait des apparitions, mais en tout cas c'est essentiellement sans lui. Witchfinder, qui ça suit les enquêtes de Sir Edward Grey, qui en fait bosse pour la reine Victoria, donc c'était au 19e siècle. Tout ça c'est vraiment dans le même univers, hein, donc c'est à différentes époques.
Sir Edward Grey.
Ouais.
C'est Earl. Grace.
Peut-être, c'est possible, ouais, bah, c'est avec lui. Oui, mais un je te dis qu'il prend, il prend des personnages historiques et il en fait ses propres trucs.
Il faut que je lise ça.
Ah, mais ça défonce, hein.
Ce qu'il y a de dingue, après, en fait, ce qu'il y a de dingue, c'est que tu vois, par exemple, Lobster Johnson, dans la timeline, il apparaît, non, pas Lobster Johnson, pardon, qu'est-ce que je, merde.
Baltimore?
Non, oui, c'est ça, c'est pas Baltimore. Non voilà pardon, c'est Sledgehammer dont j'ai pas parlé en fait, c'est les histoires d'une espèce d'armure un peu high-tech pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui est cool juste avec ce truc là, c'est que après la fin des aventures de Lobster Johnson et avant celle d'Hellboy, il y avait rien, et donc il s'est dit ok je veux créer un nouveau truc, ok bah Sledgehammer ça sera à cet endroit là. Du coup tu peux vraiment faire une timeline, même d'accord. Si des fois ça se chevauche.
Il a réussi à peupler toutes les époques de ouais. Personnages.
C'était pas forcément son but précis, mais
oui,
en tout cas, quand
mais voilà, il s'est fait plaisir, quoi.
Voilà, exactement. Et il y a aussi donc.
T'as rien d'en parler, j'ai envie de tout lire.
Mais non, mais c'est ça. Comme je l'ai dit, il y a Baltimore, c'est les histoires du comte Baltimore qui chasse des vampires. Et le tout dernier en date, c'est Frankenstein Underground, qui est une mini-série. Bon bah voilà, c'est son nom l'indique sur Frankenstein. Et donc la majorité des, bah d'ailleurs tous les, à part quand c'est des mini-séries, toutes les séries dont j'ai parlé là continuent encore aujourd'hui. Et la petite particularité de tout le Mignolaverse, donc c'est je l'ai pas dit, mais c'est chez Dark Horse,
oui.
Delcourt en France, tout, vraiment, il n'y a pas à se prendre la tête. Et la particularité, c'est que c'est souvent des mini-séries, enfin surtout Hellboy en fait, c'est, tu vois, on l'a dit, Seeds of Destruction, le premier, c'est juste en 4 issues. Souvent en France, ça sort en un seul bloc. Mm-hmm. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de se dire, c'est pas un Batman ou un Superman, tu dis putain, c'est le numéro 472, je connais pas. Non, évidemment, si tu lis une aventure de maintenant, alors que t'as rien lu, t'auras des références que t'auras pas, mais c'est hyper accessible, et si vous aimez un tant soit peu, l'univers un peu fantastique et tout, go, les dessins sont trop beaux, tapez juste Mignola sur Google, vous allez devenir ouf. Bien.
Donc voilà, on va vous mettre une playlist sur le site pour pouvoir voir les Français et les Anglais de la. Les TPB que vous pouvez récupérer et les lire pour découvrir vous-même Hellboy et le Millionaverse. On va revenir juste après cette petite page de pub. Pas le temps.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
Eh dis donc, Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche. Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite.
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite.
Allez Marcel, au studio.
Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Giboite.
Une fois par mois.
Sur Radio Kawa.
Retour pour la troisième et dernière.
Oula, retour.
Pour cette troisième et dernière partie de Comics Podcast, c'est hors les bulles.
Ah là, pardon. C'est ça la vraie musique. J'avais pas mis la bonne musique. Je suis désolé.
Je redis, pas de retour. Hors les bulles, on va parler d'une série qui vient tout juste de commencer sur Netflix le 20 novembre. Il s'agit de Jessica Jones, la deuxième série dans l'espèce de... comment on peut dire? Est-ce que c'est un sous-univers, les séries télé?
Le Daredevilverse?
Voilà.
le
Marvel Netflixverse.
Ouais, Marvel...
C'est non, mais en fait... Ouais, vas-y.
Parce qu'en plus, ouais, c'est parce que, ouais, non, c'est, vu que c'est même pas, j'allais dire, non, c'est pas raccroché à The Shield ni rien, donc c'est encore un autre truc.
Bah, techniquement, si, c'est dans le même monde.
Si,
c'est dans le même monde. Laissez-moi présenter la série.
C'est certain.
Adapté du comics Alias de Brian Michael Bendis, qui est sorti il y a un certain moment. L'adaptation est une espèce de mise en page pure et simple de ce comics qui s'appelait Alias. Ben non, pas de blague.
Non, je fais pas cette blague, on n'a pas le temps. Zef, il a pas pu parler sur Hellboy, on n'a pas le temps.
Il y a 13 épisodes qui sont disponibles en streaming sur le site Netflix, qui durent à peu près une heure.
Toute la saison. Hein.
Voilà, toute la saison directement. À télécharger, ça va, Ben? T'as entendu?
Non, parce que t'as dit tous les, il y a 13 épisodes, mais je voulais juste préciser que c'était la saison entière en fait.
Oui, voilà, donc 13 épisodes. On a au casting.
Non, mais il y avait aucune vanne, c'était vraiment juste pour.
Kristen Ritter, que vous connaissez peut-être de Don't Trust the Beach, qui joue Jessica Jones. Vous avez le
Jean. Et de Breaking Bad, putain.
Ah là là,
aussi,
putain.
Ouais, c'est avant ça. Vous avez aussi le Jean de Jessica Jones qu'on voit dans toute la série, qui est toujours le même, c'est dégueulasse.
Ah oui, c'est vrai.
Michael Turk qui joue. Michael Turk.
Arrêtez. Michael Thor qui joue Luke Cage, Rachel Taylor qui joue Patissa Walker, qui est l'espèce de sœur adoptive de Jessica Jones, Carrie Ann Moss que vous connaissez de Matrix, qui joue Jerry Hogarth,
qui joue une goutte, hein, on peut le dire.
Oh mais c'est que d'où c'est important.
Elle est délicieuse, elle est délicieuse.
Et enfin dans les dans les personnages qu'on voit dès le début, je veux dire, il y a aussi David Tennant, le dixième docteur que tout le monde aime.
Le meilleur.
Tu l'aimes tellement pas?
Si, moi j'aime bien.
Ah d'accord, je sais pas, tu l'as tellement dit avec une sorte de...
Non, c'est, pardon, excusez-moi, c'est le 9e docteur en plus, c'est le 9e.
Ah, Rochurch aussi.
Qui joue, oui, qui joue Kilgrave, l'antagoniste de cette série, j'en dis pas plus. En showrunner, on a Melissa Rosenberg, qui a participé dans les scénarios de Dexter, Ally McBeal, Boston Public, mais surtout Sexy Dance et Twilight.
Ah, ça c'est stylé.
Ça c'est chaud, pardon. Et voilà pour tout ce qui est de...
C'est qui elle, t'as dit quoi?
Melissa Rosenberg.
Ouais.
C'est la scénariste. De la série.
C'est la showrunner, c'est la...
Du coup, on a regardé les trois... Ah, j'ai oublié de dire spoiler au début de l'émission, de dire qu'on est parlé.
On a rien spoilé pour l'instant.
Mais c'est quelque chose dedans.
Juste un pios, Zef, Hellboy Mignola, t'aimes bien ou pas?
Faut en revenir là-dessus. Aucun rapport.
Juste pour un oui ou un non, quoi.
Début d'émission, on a parlé. On peut.
Dis juste oui ou non.
Non mais je peux pas répondre comme ça, il faudrait j'explique.
Voilà, ça prouve juste la richesse du truc.
Mais vas-y go, enchaîne là.
Oui, bon, donc alors, on a regardé les trois premiers épisodes. Zef, tu les as vus ces épisodes?
Oui.
Alors, au niveau de l'intrigue, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu dessus?
C'est bien.
De l'intrigue, c'est bien.
Je sais pas, tu me demandes mon avis là ou pas?
Oui.
Ah, d'accord. Non, en fait, c'est donc j'ai regardé que les 5 premiers pour l'instant, j'ai pas eu le temps de voir plus. C'est très donc très très pensé dans l'univers d'Ardeville.
Ouais.
Ça se passe de toute façon dans Hell's Kitchen aussi. On y croise d'autres personnages qui auront leur série plus tard sans spoiler. Mais ça a déjà été dit plusieurs fois.
Oui, c'est pas du spoil. Hein,
c'est une... Alors, à mon sens, c'est une très bonne série. Ça reste complètement dans l'univers d'Ardeville au niveau la réal, au niveau de l'image, au niveau de la photo via fait. C'est le truc qui moi me gêne différemment, vraiment différemment de d'Ardeville, c'est que d'Ardeville avait un univers ultra sombre qui était très cohérent, très bon,
Je t'interromps. Est-ce que tu peux nous présenter en 2-3 phrases Jessica Jones? Parce qu'on n'avait pas parlé de qui c'était. C'est le titre de la série, mais.
Alors, Jessica Jones, en fait, c'est une. Donc, je vais la présenter comme un super-héros, mais ça n'est pas encore vraiment.
Donc, une fille, donc héroïne.
Donc, c'est un super-héros qui devra. Qui en devenir, on va dire, et qui a un pouvoir, enfin, plusieurs pouvoirs. Elle sait pas voler, elle sait plutôt atterrir maladroitement, on va dire.
C'est ça.
Elle a une très grosse force, enfin, elle a une force surhumaine. Elle peut tabasser des mecs sans aucun problème. Je crois que c'est tout à peu près. Elle a une très grande résistance aussi physique. Elle court très vite. Enfin bref, elle a des pouvoirs surhumains dans ce sens-là. Et son histoire personnelle derrière, je vais pas la dire du coup, mais il lui arrive quelque chose de grave. Donc elle a un passé, au moment où la série commence, elle a un passé qui est très lourd. Psychologiquement, elle est pas stable du tout. Pour des raisons qui sont très très réelles, très ancrées, et qu'on découvrira au fur et à mesure de la série. Donc voilà. Donc,
elle est détective privée.
Et elle est détective privée. Donc, elle a monté sa boîte de détective privée qui s'appelle Alias. Donc, elle suit des hommes infidèles en prenant des photos. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs comme ça la série tourne beaucoup autour de ça, au moins en début pour l'instant. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je disais sur l'univers? C'était très bien. Moi, le seul truc que j'apprécie un peu moins par rapport à Daredevil, c'est que il y a le côté un peu sombre qui est mis en avant, mais comme il faut un petit côté un peu plus léger dans le personnage et dans la série pour pas que ça tout le temps dans le sombre et dans le noir et dans le machin, parce que c'est quand même assez lourd par moment. Dans Daredevil, il y avait son acolyte la secrétaire qui relevait un petit peu le ton et qui donnait des petits...
Qui
désamorçait les petits trucs et qui donnait un petit peu le côté fun de la série pour avant de retomber vraiment dans le sombre. Là, c'est elle qui doit arriver à faire les deux rôles en même temps, et par moment c'est un peu lourd en fait. J'ai envie de dire ok, là t'es marrante, je t'aime bien, je te kiffe, tout ce que tu veux, mais arrête, parce que on sent que c'est forcé. Enfin moi j'ai l'impression que c'est trop forcé, on le sent trop, et tu pourrais être un personnage qui est ultra hardcore au niveau tempérament et psychologique, et par moment ça colle plus des matchs. Je trouve que c'est une ambivalence qui est pas très bonne
sur ce point. La différence de Daredevil, alors déjà elle n'est pas accompagnée dès le début d'une personne qui est un peu son
sidekick. Elle est toute seule, on la voit.
Oui,
elle
bien
est
sûr, tout, ça,
toujours problème. Toute seule. Mmh. Et du coup, en fait, on voit sa frustration, sa la haine qu'elle a pour bien les sûr. Autres les autres personnes
elle
qui l'entourent.
Voilà. Surtout les gens qui essaient de s'accrocher à elle. Elle les repousse ouais. en permanence, ce qui est logique.
Je suis donc trop dangereuse pour vous, compagnie. Au niveau des persos, il y a quand même beaucoup de personnages par rapport à Daredevil.
Pourquoi tu me regardes dans les yeux?
Ça serait cool de faire un truc, c'est d'arrêter. Enfin, c'est bien de comparer à Daredevil, mais on commence quasiment toutes nos phrases par, enfin, en mettant en rapport avec Daredevil. Je pense que, ok, c'est dans le même univers.
Par rapport à une référence d'une autre série.
Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec Zef au niveau visuellement.
Faut pas réduire à ça, effectivement.
En fait, je suis d'accord avec Zef quand il dit.
On était d'accord avec toi, mais c'est juste que là, bon, pardon.
Non, je suis d'accord entièrement avec Zef quand il dit que au niveau de l'univers visuel, la photo, c'est vraiment exactement. Tu sais que t'es dans le même univers. Ça, c'est vraiment très bien. Mais c'est juste que, pardon, le seul truc, enfin, je peux le comparer à Daredevil, mais juste en disant.
Je vais te
le
mettre dans le cul le micro si tu l'approches pas de ta bouche.
Je vais te le mettre dans le cul. Je peux le comparer à Daredevil dans le sens où c'est, pour moi, c'est plus un polar avec des pouvoirs que un super-héros qui est dans une dans un New York du crime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'arrêterai la comparaison avec Daredevil, même si c'est le même univers, parce que je pense que c'est vraiment une série à part entière et que, alors.
C'est que bon, quand ils vont se rencontrer, tout le monde va te viser, quoi.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, voilà. C'est que j'ai maté les 13 épisodes, donc je veux pas spoiler, mais c'est juste que.
On parle que des 3 premiers.
Voilà, mais c'est pour ça, mais ce qu'a dit Zef, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, mais sur, par exemple, sur les 3 épisodes, parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord, parce que j'étais plus loin. Personnellement, je trouve que c'est la série Marvel la plus sombre de tout. Même d'accord. que les films, c'est vraiment très sombre pour. Pas visuellement, mais. Vraiment, c'est très violent plus tard et c'est très grave et le méchant est vraiment. C'est
on n'a pas besoin d'en parler.
Non mais bon, déjà dès la fin du premier épisode, c'est hyper grave. Voilà, tout de suite quoi. Ben,
je suis d'accord. Wow, d'accord quand on dit okay. que. Je suis d'accord quand on dit que Daredevil c'est sombre, etc. Autant visuellement que dans l'histoire et les personnages.
Mais Daredevil ça garde un côté plus pop parce qu'il y a un héros masqué.
Exactement,
en fait.
Exactement. Là, alors t'es vraiment, là, t'es encore plus dans la réalité, même si effectivement elle vous déporte en métal à main nue, etc. T'es beaucoup plus dans la réalité que n'importe quelle autre série de super-héros. Donc pour moi, c'est vraiment une détective avec tout ce que ça implique et des pouvoirs. Et juste pour finir, pour rassurer les gens qui ont un peu peur des Freak of the Week comme on dit souvent, ça sera pas le cas. À l'image, bon effectivement je vais comparer à Daredevil, à l'image de Daredevil, c'est vraiment un truc sur la longueur de la saison et ça c'est vraiment très cool. Voilà, juste effectivement il faut pas que je spoil. Le gros avantage que je dirais, c'est que j'ai remarqué en tout cas de toute la série et dans les 3 épisodes premiers, tout a une utilité, c'est-à-dire que tout sert, même le moindre petit personnage, la moindre petite intrigue, le moindre truc que tu verras dans l'épisode
2. Donc vous m'assurez que Luke Cage il va servir à un moment.
Je dis pas, mais en tout cas,
d'accord. C'est voilà, pour le moment,
tout ce que je veux dire,
moi.
C'est que là où j'ai
c'est pas un procédural.
Là où j'ai trouvé ça très intelligent et très bien construit dans l'écriture au-delà des persos, etc., c'est que tout est cohérent et tout a un sens et c'est vraiment à la fin de la saison, je me suis dit ok, là j'ai maté un film de 13 heures en fait. Et du coup je trouve ça très cool.
Tu viens de me spoiler juste en disant que tout sert dans l'univers en fait. Par rapport à là où j'en suis, ça me spoil un truc de ouf.
C'est mon avis.
Si je peux dire ça parce que là où j'en suis dans la série, je me doutais d'un truc et tu viens de me spoiler en disant ça. Mais c'est pas méchant, c'est pas une reproche.
C'est absolument subjectif ce que je viens de dire.
Donc c'est une série donc Netflix. Du coup. Elle fait partie, comme Daredevil, encore une comparaison, du MCU, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit parfaitement dans la continuité scénaristique des films, donc Avengers que vous avez pu voir, les Thor, les Captain America, le futur Civil War, tout ça c'est dans la même continuité. Bon, évidemment,
The Grey and the Blue, c'est le titre que j'ai donné à Civil War. Ça va, comme ça. C'est okay. Plus poétique, c'est plus...
Mais voilà, c'est juste pour dire que sans faire de d'espoir de voir une Kristen Ritter dans Avengers Infinity War ou quoi que ce soit, qu'il y a des connexions qui sont tout à fait faisables dans un sens comme dans l'autre, mais bon, il y a toujours des histoires de contrats qui empêchent certaines.
En fait, sur pareil, il y a pas de feedback quoi. Ça redescend vers les séries, mais ça remonte jamais vers les films quoi. C'est tout.
Voilà. Bon après, on verra avec un peu de chance plus tard. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres choses à ajouter sur cette série?
Non, pour l'instant j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup, donc ce que j'ai vu m'a pour l'instant un peu emballé, mais j'attends vraiment d'en voir plus pour
c'est une très bonne série, pas déconner.
Simplement, Daredevil m'avait happé dès le premier épisode.
Comme tu disais, en fait, on l'a peut-être trop comparé à Daredevil parce que c'est dans la même série, parce que c'est Netflix,
parce que Netflix
a signé beaucoup de trucs après Daredevil en disant on va faire la truc parce qu'on s'est cartonné sur Daredevil. On est obligé de la comparer maintenant. C'est vrai que c'est une très bonne série en soi et elle se regarde tout seule surtout. Il n'y a pas besoin d'avoir vu Daredevil pour la comprendre.
Si vous n'avez pas aimé Daredevil, tentez le coup quand même.
Au regard de ce que vous dites là, je vais quand même effectivement exposer mon avis. même s'il est assez limité parce que j'ai pas encore vu beaucoup. Mais pour l'instant, ce qui me gêne, en tout cas, c'est que l'isolation du personnage principal, qui devrait, à mon sens, être l'un des points forts de la série, c'est-à-dire se dire on vit à travers un personnage qui effectivement est totalement coupé du monde et se renferme complètement parce qu'elle a vécu des choses traumatisantes. Pour l'instant. De ce que je vois, ce côté-là me gêne parce que je le trouve pas, je le trouve trop. Je trouve que pour l'instant, le personnage est trop gros pour les épaules de l'actrice principale.
D'accord.
Que je trouve pas mauvaise, mais que je trouve un peu frêle, fragile par rapport à tout l'univers qu'elle a autour d'elle. Et j'aime bien cette actrice, je l'aimais bien dans Breaking Bad, je la trouvais vraiment chouette. Mais là,
c'est pour ça que je disais que comme elle doit désamorcer
elle-même
les trucs,
ça se rapproche un petit peu de ce que tu disais tout à l'heure. Pour l'instant, je trouve qu'elle manque d'épaule pour porter cette série qui s'annonce effectivement lourde, violente, sombre. Et je me dis, avec cette nana-là, est-ce qu'elle va réussir? Pour le moment, sur le premier épisode, elle m'a que moyennement convaincu.
Mais je suis pas sûr que ce soit un truc qu'elle subisse. Je sais pas du tout si elle est bonne actrice ou pas. Enfin, ça va, je veux dire, je sais pas si ça fait partie de son jeu. Mais en tout cas, je trouve que la faiblesse du personnage par rapport aux éléments extérieurs, alors que c'est censé être une héroïne, pour moi, c'est un des axes de la série.
Oui, mais moi, du coup, ça me convainc pas. Je suis pas convaincu par le truc, tu vois. Pour l'instant, je trouve pas ça totalement abouti. Mais peut-être qu'au fil des épisodes, quelque chose va se révéler à moi.
Super doute. Vous savez que les séries, les pilotes, ils tournent les pilotes souvent très très en avance par rapport au reste de la saison. Et je me demande si pour une série Netflix, ils font pareil. Est-ce qu'ils tournent les 13 d'un coup en fait, ou est-ce qu'ils tournent un pilote, ils le présentent au machin et ils tournent les 12
sérieusement,
autres.
Sérieusement, j'en ai pas la moindre idée.
Parce que ça pourrait donner une mauvaise impression de la série, alors qu'en fait derrière il y a
c'est pas le même. Tu voulais pas trop qu'on parle des autres séries Netflix, c'est ça? Tu voulais pas qu'on spoil entre guillemets?
Non, on peut parler des autres.
Non, parce que comme on l'a dit, il va y avoir des séries de certains autres personnages qu'il y a dans Jessica Jones. Et juste pour dire que il y a une saison 2 qui... Enfin, une saison 2 pourrait voir le jour, mais la showrunner voudrait que ce soit avant le film Coral, donc qui réunira tous les héros, donc je donne pas de nom pour pas spoiler. Oui pardon. La série Coral qui réunit tous les autres héros Netflix qu'il y aura, mais en gros au niveau planning ça fonctionnerait pas trop. Donc pour l'instant la saison 2, dans les cartons, on sait pas trop.
Mais le personnage de Jessica Jones va réapparaître dans
normalement,
cette série.
Mais alors toutes ces séries sont annoncées.
Tu veux qu'on dise les noms ou pas?
Defenders, mais oui, tout ça c'est annoncé.
Il y a Luke Cage, Iron Fist et
Defenders.
Ouais, non, mais il y en a une autre encore.
Non,
Punisher.
Je sais pas.
Non, Punisher est prévu, si.
Non, mais il va apparaître dans Daredevil, c'est tout. Il y a pas de série Punisher.
Enfin bref, en tout cas voilà, c'est pour tout ça.
Si, Punisher, ça a été annoncé.
En série?
Ouais, la série Punisher a été annoncée, ouais.
Sur Netflix.
Moi j'ai un doute aussi, les gars. Je pense que
c'est
plutôt dans Daredevil. Bon bref, tout ça pour dire que elle veut tourner la saison 2, mais si elle le fait, ce serait avant Defender, selon elle, ce serait plus logique. D'accord. Mais le planning.
Et
pas,
il me semble que Defender c'est de 2017.
Ouais, et en fait Iron Fist et Luke Cage, en même temps que la saison 2 de Daredevil, c'est
donc
début d'année
prochaine.
Donc c'est un peu short. C'est un peu short pour la saison 2 de Jessica.
Donc ça fait un planning chargé pour Marvel Television, enfin Marvel Entertainment et ABC Studios.
J'ai l'habitude d'avoir un planning chargé Marvel.
Avec 3 films l'année prochaine, 2 saisons, Agent Carter et bon, je passe les autres, ça va être super serré. Merci pour ces revues, c'est la fin de cette émission.
Oh déjà!
Merci pour cette émission 34e. Vous pouvez, comme d'habitude, nous écouter, pardon, sur le.
Vous nous appelez aussi.
Vous appelez aussi au 3601. Je sais pas si ça existe déjà. Nous on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 14 décembre, pour une émission spéciale pour Noël. En attendant, on va dire au revoir à nos chroniqueurs. Au revoir Joe.
Ben au revoir. J'allais dire à la semaine prochaine, non? À dans 2 semaines.
À 2 semaines. Au revoir Ben.
Bye bye.
Au revoir Zef.
Ciao.
À très très bientôt. Lisez plein de comics. Et bonne semaine au pluriel. Ciao.
Bye bye.